Des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous. Oui, vous l'avez reconnu, cet indicatif que vous aimez, c'est celui de l'émission Des livres plein les oreilles, animée par Clotilde Seil et ses invités sur les ondes de Canal M. Alors fidèle comme vous êtes, vous savez que cette émission se consacre exclusivement aux livres audio adaptés, ceux que vous pouvez trouver absolument gratuitement via le SQLA par BANQ. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne vous ai pas redonné le numéro de téléphone. Si vous voulez vous aussi vous inscrire ou simplement obtenir des informations pour ce service gratuit, vous devez composer le 1-866-410-08-44. Alors aujourd'hui à l'émission, je vais avoir encore une fois plusieurs personnes, dont deux sont d'ailleurs déjà autour de moi en studio. J'ai nommé Sébastien Blondeau, bénévole, qu'on va entendre en seconde partie, qui va venir nous présenter un livre qu'il a lu. Et puis j'ai également le plaisir de recevoir pour la deuxième fois Abla Faroud. Et cette fois-ci, il sera question du livre « Toutes celles que j'étais ». Mais d'abord, comme le veut la tradition de cette émission, on va commencer par nous entretenir avec une personne non-voyante qui a lu pour nous un livre et qui nous en parle. Et je m'adresse à Suzanne Lalumière. Bonjour Suzanne.
Bonjour Clotilde.
Oh, mais ça faisait une éternité que vous n'aviez pas participé à cette émission.
Ah, le temps passe vite.
Vous lisez beaucoup, mais vous voyagez beaucoup aussi. Alors, ceci explique cela.
Oui, exactement.
Oui.
Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un livre de William Boyd.
Oui.
À livre ouvert.
Ah oui, dommage que l'émission ne s'appelle plus à livre découvert. Mais peut-être d'ailleurs qu'ils avaient imaginé ce titre en pensant au livre de M. Boyd.
Peut-être. Alors, il ne serait pas le seul, il serait une très bonne source d'information et d'inspiration.
Et d'inspiration, c'est ce que tout le monde dit. Tous ceux qui ont lu ce livre sont à chaque fois un peu, même complètement renversés. Pourquoi?
Oui, effectivement.
Pourquoi, Suzanne?
Je vous dirais, d'abord, c'est une encyclopédie.
Ah oui.
Alors, c'est une encyclopédie autour d'un auteur, Logan Mount Stewart, que dans le livre on appelle aussi LMS,
oui.
Parce que William Boyd a fait des références autour de l'auteur. Il fait la vie à partir de 1904 à 1992, et c'est le récit de sa vie. Et ce type va rencontrer plein de gens. Des gens qui ont existé. Il va rencontrer Hemingway, il va rencontrer Picasso, il va rencontrer en d'autres occasions le duc et la duchesse de Windsor.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, il a créé un personnage qui est entouré d'histoire.
C'est ça. Donc, au départ, si je vous comprends bien, le personnage central est tout droit sorti de l'imagination de William Boyd.
Oui.
À qui donc il va inventer une vie, finalement?
Exactement.
C'est une fausse biographie, quoi.
Presque une biographie. Quand j'ai eu terminé, j'avais même à la fin ses écrits en note biographique. Voyons donc, est-ce que c'est un récit?
Ah oui, hein?
C'est un roman. Alors, parce que c'est un écrivain, il a écrit 4 ou 5 livres.
Mm-hmm.
Et puis, mais je voudrais ajouter 2 choses.
Oh, mais plein de choses. Vous avez tout votre temps.
C'est que l'histoire passe à travers ce personnage.
Oui.
Plus précisément, à partir de 1929, la Deuxième Guerre, la Guerre froide. Là, on sent la présence historique.
Oui.
Et c'est intéressant parce qu'on la vit à travers un homme. On dit toujours, l'histoire passe à travers un individu, puis l'individu fait l'histoire. Alors, cette partie du livre est plus particulièrement intéressante.
Ah.
Et je dirais aussi que... l'autre axe que moi je voudrais que les gens s'attachent le plus, c'est le personnage. parce que c'est lui qui... C'est un écrivain très intelligent, c'est un bonhomme très sensible, et il est profondément humain, avec des limites. Mm-hmm. Et ça nous le fait apprécier autrement. C'est un homme qui, dès le départ, bon, il n'est pas alcoolique, mais il lève le coude un tout petit peu.
Oui, je comprends.
Alors, deuxièmement, il écrit des livres, mais ça lui vient pas instantanément, et parfois ça lui tente pas.
Carrément.
D'autres fois, ça lui tente. Donc, si vous suivez ce personnage, vous allez rentrer dans sa psychologie.
Mm-hmm. J'ai Abla Faroud en face de moi qui opine du bonnet en souriant un peu, écrivaine elle-même, auteure elle-même. Et en tout cas, donc, il est vraiment, cet homme-là, c'est un homme, je m'adresse à Abla aussi parce que le livre dont elle nous parle s'appelle « Toutes celles que j'étais ». Et cet homme-là, il est très multiple.
Hein? Oui.
Il a une vision dans le sens, il est écrivain, il est critique. Il est vendeur d'art aussi.
Il est vendeur d'art.
Il est espion. Il a été correspondant de guerre.
Il a travaillé pour le gouvernement. Parce que c'est ça, l'histoire, comme j'ai dit, passe à travers ce personnage.
C'est ça, hein?
Donc, d'abord, sa mère va connaître des pertes énormes en 1929. Ensuite, sa rente a fondu avec le crash boursier. Ensuite, durant la Deuxième Guerre, bon, il est très intelligent. Il écrit des critiques dans des revues d'art et dans les journaux. On va le repérer pour faire des articles pour confondre les nazis.
Ah oui.
Ensuite, on va lui demander, et ça va lui arriver à deux reprises, de surveiller des gens parce qu'il a une acuité.
Ah oui?
Assez importante, et on l'envoie aux Bahamas rencontrer quelqu'un avec qui il a joué comme par hasard dans un terrain de golf,
okay.
le duc de Windsor.
Ah, OK!
Alors, il va aller surveiller le duc de Windsor pendant 2 ans, et puis à la toute fin, il y a un incident diplomatique, il est rappelé très rapidement en Angleterre. Puis je ne vais pas tout révéler,
non,
mais c'est des moments charnières.
Oui, oui, je comprends ce que vous voulez dire.
Et là, il va être emprisonné dans une prison politique en Suisse pendant 2 ans. Et je vous fais grâce de tout ce qui arrive pendant ce temps-là parce que la guerre va venir,
oui.
va venir chercher...
Brouiller les cartes, comme on dit.
Les êtres les plus chers.
Oui.
Je dirais juste comme ça.
Est-ce que vous pensez que M. Boyd, est-ce qu'il y a des éléments de sa vie là-dedans? Bon, lui, on sait qu'il est né en 52, donc il est né beaucoup plus tard, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des éléments autobiographiques là-dedans?
Ben moi, j'en suis convaincue parce
ah,
que
oui,
d'abord, Logan Mountstuart naît en Uruguay, en Amérique du Sud, et va étudier en Angleterre au Collège Jésus et à Oxford.
Oui.
Comme par hasard,
comme William Boyd.
Monsieur Boyd est né au Ghana.
Oui.
Donc, et il va étudier au Collège Jésus et il va étudier à Oxford.
Oui, 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 oui.
Donc, il y a certainement, d'ailleurs, tous les écrivains pigent dans leur vécu d'une façon plus ou moins camouflée. donc, il fait pareil.
Et Abla Faroud de rire encore une fois. donc, elle aimait, hein, c'est comme ça qu'on le... Est-ce qu'on va jusqu'au bout? Est-ce qu'on va jusqu'à sa mort ou est-ce qu'on...
On va jusqu'à sa mort. Et
okay.
Je vous dirais que le fil continu du livre, c'est sa recherche d'un amour. Je dirais pas, mettons-le pas au sens le plus mièvre, la recherche de l'amour de la femme.
Oui.
Et jusqu'à la toute fin... il va encore avoir une relation plutôt infructueuse lorsqu'il est rendu en France. Et c'est le fil continu.
OK, d'accord.
Alors, mais... ça, c'est pas un roman d'amour,
non,
entendons-nous. Mais tout le long, il y a des femmes. Ça commence, son premier livre est inspiré par une femme. Mmh. Il y a des relations, il y a des enfants.
Oui.
Tout ça, c'est là. Et
mais il cherche la femme.
Ça m'a surpris en le relisant de voir à quel point c'était caché derrière les mots, tout le temps, ou même textuellement. Là. Mais c'était toujours présent. Et j'ai lu une critique qui disait, quand j'ai fermé le livre, je l'ai fermé à regret.
Oui.
Parce que j'aimais tellement ce personnage-là.
Oui.
Ouais. Et ça, je peux dire exactement la même chose.
Ah, ben écoutez, merci beaucoup. Et moi, c'est fou parce que j'allais finir sur la même phrase. J'avais lu à peu près la même chose aussi. Il y a quelqu'un qui disait ça.
Je veux dire une chose cependant.
Allez-y.
C'est pas un livre qui démarre sur les chapeaux de roue. Faut être patient.
Faut être patient.
Il se gagne.
Il se mérite.
Il se mérite.
Dans le sens propre du terme et pas celui qu'on utilise. Hein. Souvent, là, vraiment, lui, il se mérite. Hein.
Il se mérite, il est intéressant. Puis quelqu'un qui a un peu de culture, ah oui, un tel.
Ouais.
Puis, moi, j'étais sur Wikipédia pour voir, bon, est-ce que c'est vrai le Duke de Windsor? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis ainsi de suite. Il y a des ressources, il y a des notes partout. C'est une brique.
Hein. Ah, c'est une brique. Hein. Ça représente combien d'heures de lecture à voix haute? En audio, à peu près.
Bon, je pense que c'est 18 heures, parce que c'est 500 pages.
Combien vous dites? 900?
C'est 500 pages.
500 pages,
480,
ah oui.
Là, c'est ouais. Quand même assez long.
Oui, c'est écrit serré, là, oui. Il y en a pour quelques heures, effectivement. Ouais. Écoutez, Suzanne, je voudrais que vous me fassiez une promesse.
Oui.
Je ne veux pas que vous attendiez 6 mois avant de revenir à l'émission. Je vous en accorde maximum 2. Est-ce que ça vous va? Non, mais sérieusement, c'est un plaisir de vous entendre et vous nous donnez vraiment envie de lire ce livre et je vous en remercie. Je vous redonne le titre, « À livre ouvert » de William Boyd, Boyd, B-O-Y-D. Et c'était présenté aujourd'hui, par Suzanne Lalumière. Merci beaucoup, Suzanne.
Bonjour et salutations à vos invités aussi.
Merci beaucoup et à bientôt.
Bonjour. Point
d'interrogation?
Oui.
Salut. Abla Faroud. Bonjour Abla.
Bonjour.
On a tellement aimé ça, vous recevoir une première fois, que quand j'ai vu moi que le livre « Toutes celles que j'étais » était disponible, je me suis dit « Eh ben, voilà, je vais l'inviter une deuxième fois ».
Et là, vous m'invitez, mais le jour où je ne suis pas très, très bien,
ah non,
je
mais ça,
sens
ça, non,
pas
ça va bien.
Un peu malade.
Mais
je
non.
suis quand même venue.
Oui, et là, la foule est debout. Je sens que les auditeurs de l'autre côté, ça applaudit. Je me souviens du choc, littéralement, de l'amour que j'avais porté et que je porte toujours au livre « Splendide solitude ». Alors, c'est sûr que quand on est emporté par le livre d'un auteur autant que je l'avais été avec « Splendide solitude », je me suis dit oh, « pourvu que j'aime ça, le prochain, pourvu que j'aime ça, je vous rassure tout de suite ». J'ai adoré ça aussi. C'est un autre univers parce que vous ne nous amenez pas évidemment dans une même période, mais « Toutes celles que j'étais » est un livre très réussi à Blas et je voudrais qu'on en parle ensemble. Vous êtes libanaise d'origine et c'est ce que vous racontez dans ce livre. Et vous racontez, mais j'ai lu quand même quelque part, bon, oui, c'est votre vie, c'est votre arrivée avec la famille, mais il y a des anecdotes là-dedans que vous avez inventé.
Alors, oui, mais c'est quand même le plus autobiographique de ce
ça.
Que j'ai écrit avec jeu.
Ah bon.
Avec le jeu qui est moi. Puis ça, c'était un peu embêtant, ça.
Okay. Ah oui?
Ah ouais, ouais.
C'est vrai?
Oui, c'est très difficile d'écrire avec un jeu qui est nous, qui est moi.
Oui, c'est ça.
Moi, j'ai toujours... j'ai écrit des jeux, mais qui sont pas... qui sont comme des personnages.
Mais oui, inventés, c'est
inventés,
ça.
Inventés, et là... Bon, c'était en partie, mais quand même, c'était le fil de ma vie.
Le vrai jeu.
Les vraies années, arrivées en 52, 51, 51.
Oui, c'est ça, oui.
Oui, c'est ça, de 6 ans à 20 ans au Québec, tu vois, c'est comme les dates sont là.
Oui.
Avec les lieux.
Quel curieux papa, quand
ah
même.
Oui,
ce papa que vous appeliez Baillé.
Oui, Baillé, c'est la façon de dire papa dans les villages.
OK, dans les villages.
Oui.
Mais Baillé sans majuscule.
Papa, est-ce qu'on met un majuscule avec papa?
Vous avez raison, c'était une question idiote. Ça, vous savez... Non, c'est parce que je ne savais pas en fait que ça voulait dire Baillé.
Oui,
alors moi, je pensais que c'était un surnom.
Oui,
comme
mais
dit.
C'est vrai que ça aurait pu être un surnom parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de personnes qui appellent leur papa. La plupart vont dire Baba.
Baba. Ah, Baba.
Mais moi, j'ai toujours dit Baillé, puis j'ai continué à dire Baillé.
Alors, ce baillé, il a un frère qui s'est installé au Québec et au début
d'une mère.
Une mère ouais. aussi. Et donc, il fait déjà des voyages. Et d'ailleurs, et au tout début du livre, on est au moment où un de vos frères vous lit une lettre oui. de ce fameux baillé. Que finalement, vous allez finir par rejoindre. Allez, hop là!
Oui, c'est ça. C'est... Mon père nous a précédés, mais qui lui-même était précédé par
oui.
Une mère et un frère.
Et un
frère,
grand-père et un mère. Oui, oui, enfin, oui, c'est ça. C'était pas nouveau que cette famille-là déménage
ses
pénates.
Vraiment, c'est depuis 1885 que nous émigrons. Nous, la famille Faroud. On ne s'appelait même pas Faroud à cette époque.
Non, c'est ça.
Mais à cette époque, on ouais. laissait toujours des enfants là-bas. Un des enfants sur place. Il y a seulement à partir de notre famille, mes cinq frères et sœurs, et mon père, ma mère, là, nous, on a laissé personne. Et ça, c'est vrai. Ça.
Oui, oui, je comprends. Ouais, ouais. Mais sauf remarquer, je ne veux pas tout dévoiler, mais à un moment donné, quand même, il y en a quelques-uns qui vont retourner.
Donc, on fait toujours des allers-retours. C'est dans notre ADN. On a toujours fait des
allers-retours.
des allers-retours.
Mais ça n'a pas été une migration qui a été muée par la guerre ou par des choses comme ça. C'était des choix.
À cette époque-là, plus... nous, en tout cas, notre famille, c'était plus une question de circonstances.
C'est ça.
Oui, pas la guerre. Non, okay. C'était pas la guerre, mais...
Alors...
C'est ça.
C'est ça qui est ça, comme on
c'est
dit.
C'est ça qui est ça.
Vous, la nomade, dans le cœur et dans le sang, déjà à 6 ans, quand on vous dit « hop, on va partir », autant il y a un de vos frères qui fait la gueule, c'est pas possible, mais alors vous vous mettez à danser.
Oui, mais la petite
oui.
se met à danser parce qu'elle va aller rejoindre son papa.
Oui, ah, pas tellement parce qu'elle s'en va.
Oui,
okay.
Oui, c'est beaucoup plus tard que... Oui. Qu'elle s'aperçoit que c'est grand-mère.
Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. D'ailleurs, elle le dit, oui, oui, oui.
Oui, c'est ça. Parce que moi, en fait, je suis la moins nomade de tous mes frères et sœurs.
Oui,
moi, je suis plus... on va le voir aussi si on lit le roman. On voit que chez les immigrants, il y a comme deux sortes d'immigrants.
Oui,
il y a
c'est
les
vrai.
Immigrants qui restent toujours immigrants.
Oui.
Qui reste toujours sur une patte.
C'est ça, exactement.
Hein? Et il y en a qui
deviennent sédentaires.
Oui, qui veulent prendre pays.
Oui, oui.
Qui veulent arriver quelque part. Et je suis de celles-là.
OK.
Je suis ce genre d'immigrante.
Alors, il y a la journée du grand départ. Et avant, moi, quelque chose qui m'a marqué au moment où vous prenez une photo. On vous prend en photo, mais que les gars. Pas les filles.
C'est fou, hein, cette histoire.
Et là, je me suis dit, attends, là, je vais le relire parce que. Alors, c'est ça. Il n'y a pas de photo avec les filles. Moi et ma sœur, on se prépare pour la photo, hein, c'est ça. Donc, vous préparez, vous vous habillez, tout ça. Bon, elle se pompote, machin, truc. Pouf! Et non, c'est pas fini. Ma mère et ma tante parlent au photographe à voix basse. Il fait oui de la tête. Il va placer mes trois frères et recommence la cachette et paf, une photo avec les garçons.
Oui. Parce qu'ils n'en avaient pas besoin de la photo pour les filles.
Oh, c'est terrible.
Non, mais ils ont fait la photo. Mais c'est après que tu comprends
mais
tout
oui,
ça.
Mais oui, c'est ça, exactement.
La photo passeport, parce qu'on en a besoin pour partir. Puis là, une photo pour les gars. Point final.
Oui.
Est-ce que c'est parce que c'était trop cher ou bien parce qu'on était des filles? Ça, j'ai jamais su.
Mais qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je pense que c'est parce qu'on était des filles.
Moi aussi. J'ai pas osé le dire, mais à mon avis...
Mais non, mais tout ce que je suis dépend de ces petites choses-là.
Ben
là,
oui,
je veux dire.
C'est certain. C'est
une
certain.
Fille, c'est la deuxième tout le temps. Bon. Je veux dire, c'est difficile de prendre sa place.
Et alors, vous arrivez dans un monde... Que vous ne comprenez pas bien, quoi. Bon, d'abord...
Mais on ne comprend pas la langue.
D'abord, c'est ça. Mais il y a même aussi le moindre petit geste. Il y a en page 31 ici, le moment où vous trouvez une photo de la Vierge Marie à l'école et que naïvement et gentiment, vous allez porter à la bonne sœur qui vous donne le cours de catéchèse ou je ne sais quoi.
Enfin, bon, là, c'est ça. On est en première année, là.
Bon, c'est ça.
Elle donne tous les cours.
Et vous faites, mais alors, rabrouer, mais ça n'avait pas été gentil du tout.
Mais, Mais en fait...
Ah non, c'est vrai, c'est, oui. Où l'as-tu trouvé?
C'est que elle est désemparée, la petite.
Ah, c'est ça. Oui, oui.
Mais la sœur, elle est toute souriante.
Oui, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Elle a envie... Elle fait juste lui demander, mais où est-ce que tu l'as trouvé?
Mais oui, c'est ça. Oui, oui.
Mais déjà, le « où », c'était trop, là.
C'est oui,
déjà,
c'est ça.
Ça veut dire quoi, « où »
C'est
et là,
ça.
Elle se sauve comme une folle.
En fait, la petite fille n'a pas senti le merci, quoi. La petite fille n'a pas senti qu'on l'accueillait avec cette photographie.
Oui. Mais pourtant, on sait à la fin de ce chapitre-là que c'était cette sœur-là qui était vraiment la plus gentille
oui,
de
toutes. Oui, c'est ça, exactement.
Tout. Elle avait toujours le sourire, mais là, c'était elle, la petite, qui était désemparée.
Oui,
c'est,
oui, oui.
C'est sûr, si elle lui avait dit merci, elle connaissait le mot merci.
Oui.
Elle ne lui a pas dit merci, elle lui a
non,
dit
c'est
mais
ça.
Où l'as-tu trouvé c'est normal de poser cette question.
On ne racontera pas tout le livre parce que je voudrais que les gens le découvrent. Alors, on n'ira pas dans les détails. Mais je voudrais qu'on parle, bon, alors que depuis maintenant quelques mois, on parle beaucoup du drame de la migration, que moi j'appelle plutôt des réfugiés,
oui.
d'ailleurs, plutôt,
aussi, plutôt
que des migrants. Je pense que vous étiez plutôt des migrants, comme moi j'ai été une migrante à un moment donné.
Mmh.
Et je me suis posé la question, parce que moi je parlais la langue, vous ne la parliez pas. Est-ce que c'est ce qui a été le barrage le plus difficile ou qu'est-ce qui vous a semblé le plus dur en arrivant au Québec, à Blafaroute?
La langue. Vous n'êtes pas loin du compte.
Non,
parce
c'est
que
ça, hein.
c'est vraiment, c'est pas pour rien qu'à un moment donné, la petite se met à faire du théâtre et tout. La langue devient la principale chose. Elle lit la poésie, elle devient actrice, etc. C'est pour elle, c'était une façon d'appartenir, de faire partie de ce monde-là qu'elle ne comprend pas. Quand tu
mais
connais
non,
pas
mais
la langue, il y a plein de choses qui te... Je sais pas comment les gens font pour ne pas apprendre tout de suite, très fort, très vite.
Et vous, c'est ce que vous avez fait, très rapidement,
moi, très,
ça
très
a
vite,
été...
Très... À la fin de ma première année, j'étais déjà une première de classe. Là.
Oui,
c'était... Ça, le petit, l'image où elle comprend pas, c'est en début d'année.
Okay.
Mais à la fin de l'année, c'était déjà les poèmes à la fin à la directrice et tout. Mais
c'est incroyable.
En fait, c'était un besoin énorme d'exister.
Ah oui.
De faire partie d'eux. C'est ce que je me suis aperçue.
Et cette langue-là, maintenant? Vous l'avez quasiment perdu, puis ça vous fait de la peine.
L'arabe, oui, ça c'est une des choses qui me fait le plus de peine d'ailleurs. Il y a un chapitre complet qui s'appelle
là-dessus.
La langue arabe.
Je veux pas trop en dire, mais effectivement, c'est ça.
Mais ça, c'est mon chapitre, si on veut, qui est le plus où je me pose cette question-là. Là.
Oui, c'est ça.
J'y réponds avec. Vous avez raison. Il y a beaucoup de. Il y a comme j'ai perdu ça.
Sans compter quand vous retournez là-bas, puis que les gens ne comprennent pas que vous l'ayez perdu. À un moment donné, vous retournez là-bas et c'est vous qui ne les comprenez plus.
Oui, ça va être peut-être dans le prochain. Ça se peut très bien que je continue. Parce que là, j'ai fait les de 6 à 20 ans. Mais à 20 ans, en tout cas, on ne dira pas tout, c'est un pan de vie. Après ça, ça va être le Liban, si je le fais.
Ah, bon. Mais en tout cas, moi, c'est une des premières questions hors honte que je vous ai demandé. Puis avez-vous commencé à réécrire? J'ai envie, Abla, si vous me permettez, de vous faire entendre un extrait tel qu'il a été lu par une personne ici, ce livre, ici, chez Vues et Voix, et vous allez l'entendre.
J'aimerais beaucoup.
J'en ai un extrait pour vous, et c'est une magnifique lecture.
Oh, OK.
Sortez vos Kleenex.
Wow.
Vite, j'entre vite dans la cuisine, parce que je veux ressortir vite. Je vois mon frère debout en face de Ma. Il lui lit une lettre à haute voix. C'est toujours mon frère qui lit les lettres, parce que Ma, elle n'aime pas lire beaucoup. Depuis que Baillé est parti loin, loin, à Canada, il envoie des lettres à Ma, et c'est mon frère qui lit. Il est très sérieux, mon frère. Quand il lit les lettres de Baillé, encore plus. Moi, ça me fait peur des fois. On ne sait jamais ce qui arrive quand on est loin de son village. Ici, c'est la belle vie. Les petits font ce qu'ils veulent. Les vieux sont assis. Ils parlent toute la journée, à part ma mère et les autres mères qui n'arrêtent jamais de travailler. Ici, tout le monde est comme tout le monde, mais pas pareil. Les Druzes connaissent mieux les Druzes et les chrétiens parlent plus avec les chrétiens. Chacun sait le nom de chaque verger, parce que chaque verger a un nom. Quand je me promène, je me glisse entre les talus, je saute, j'attrape un fruit qui me tente. Personne dit « Mange pas mon raisin, touche pas mes figues ». Les voisins du village d'en haut, et même ceux d'en bas, des fois, ils viennent dans notre verger. Quand les fruits sont gros et beaux, ils en mangent. Quand une femme est accroupie près de sa plaque de tôle et que je passe par là, j'ai juste à dire qu'Allah te donne la santé, ma tante, et c'est sûr que je vais me régaler d'un morceau de pain tout chaud ou d'une bonne galette si j'arrive au bon moment. Loin, loin, à Canada, je sais pas si c'est pareil.
Wow!
C'est beau, hein?
J'en viens pas. C'est très beau. Elle lit bien, cette personne.
Elle lit merveilleusement bien.
Elle est vraiment très proche du texte.
Voilà.
Elle ne sait pas te faire des faits.
Non.
C'est beau. Mais puis moi, du coup, je reçois ça comme si c'était un livre d'une inconnue.
D'une inconnue.
Alors, je ris à des endroits.
Mais oui.
J'avais oublié. Mais une fois que mon livre est fini, une fois que j'ai travaillé, je ne touche plus, je ne lis plus. Jamais je n'ai lu un livre du début à la fin, un de mes livres. Mais ouais. Là, c'est comme si c'était un livre d'une inconnue.
Absolument.
C'est très... Enfin, moi, j'ai trouvé ça beau.
C'est très, très, très différent, effectivement, lorsqu'on... Je pense, de toute façon, écrire un livre lire un livre à voix basse et lire un livre à voix haute, c'est...
Oui, mais c'est pour ça, c'est ce qu'elle fait, cette dame-là.
C'est ça.
C'est difficile.
Non,
parce
absolument.
Parce qu'il faut le faire très... Comme si elle était dans sa tête, dans le fond. Hein?
Exactement.
C'est pas si facile.
C'est là toute la difficulté de la lecture.
Oui.
Suggérer, lire, mais pas le jouer, puis en même temps...
Oui.
Être dans chaque mot, quoi.
Oui.
Être présent.
Non, vraiment,
dans...
Je ne sais pas comment cette dame, elle est vraiment bonne.
Eh bien, écoutez, je pourrais même vous dire son nom après, là, et puis on pourrait peut-être essayer de vous mettre en contact avec elle. C'est une femme, ce que je sais, c'est qu'elle est linguiste de profession.
Ah,
et
oui?
qu'elle est aussi donc bénévole, comme l'est notre ami Sébastien Blondeau, avec qui je vais m'entretenir en seconde partie. Abla, c'est déjà fini. On a déjà passé 12-15 minutes ensemble. Oui, je sais, ça passe très vite.
Et puis moi, je vais aller dormir.
Oh, et puis moi, regardez, j'ai demandé à Madame la Lumière, Suzanne, qu'elle nous fasse une promesse. Alors je vais vous en faire, je vais vous en demander une aussi. Je veux une suite.
Une suite.
Moi, je veux le retour à Beyrouth. Je veux sentir le Beyrouth d'aujourd'hui.
D'aujourd'hui, mais ça va être le Beyrouth de 1965.
Eh bien, ce sera le Beyrouth de 1965.
Bon, ben, vous viendrez creuser dans ma tête.
D'accord. Abla Faroud, qui était notre invitée. Merci, Abla. À une prochaine fois, jamais 203.
Oui, oui.
Rebonjour tout le monde, Clotilde Seil toujours au micro. Clotilde Seil et son invité en cette deuxième partie de l'émission des livres plein les oreilles. Il s'agit de Sébastien Blondeau.
Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette.
Bah, c'était de circonstance, non?
Bah oui, c'est bien choisi.
Hein? Le premier qui rira, de Monsieur Boulris, Simon de son prénom. Bonjour Sébastien.
Le livre que j'ai lu, bonjour.
C'est le livre que vous avez lu, et de votre magnifique voix qu'on a envie d'entendre des heures et des heures, ça tombe bien.
Vous essayez de me faire rouger. Hein?
Ouais. Non, parce que c'est pas radiophonique, alors non. Même si vous étiez tout rouge, de toute façon ça se verrait pas. Comment ça va, Sébastien?
Ça va super bien, oui, bonne compagnie.
En bonne compagnie. Mmh. Ça a été un plaisir pour vous de lire ce livre-là,
le premier qui rira? Oui, d'entre les 6 livres, je crois, que j'ai lus durant l'année, c'est celui que j'ai apprécié le plus.
Ah oui?
Ouais. Celui dont j'ai été surpris le plus, oui.
Alors,
Qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là? Parce que je pense qu'il est question d'une rencontre entre trois personnes. En tout cas, on suit...
En fait, au début, c'est assez décousu, je dois dire. C'est un roman choral, qu'on pourrait dire assez dispersé. Là. Ouais. Au début, on ne comprend pas trop ce qui se passe.
Okay.
Chaque chapitre commence avec une personne différente. Et il y a des fois, il n'y a pas personne. C'est une comédie ou un théâtre. Donc, on ne sait pas trop à qui attribuer les voix. Puis, à un moment donné, chemin faisant, on se faufile, puis on comprend finalement ce qui lie les uns aux autres, ce qui lie le théâtre. Ben, en fait, on comprend que la pièce... C'est un travail, c'est une pièce en travail, en fait, d'un des personnages. Donc, c'est ça.
C'est pour ça que tout d'un coup, tout s'éclaire.
Tout s'éclaire.
Et pourquoi le titre, Le premier qui rira?
C'est pas si clairement dit dans le roman, mais on peut croire que c'est parce qu'on rit parfois franchement, d'autres fois jaune, d'autres fois... Donc, c'est peut-être à cause de ça. On parle de farce aussi. Donc, il y a un lien. Il y a un lien qui est clair, mais c'est pas si évident
que ça. Ouais. Moi, je pensais que c'était parce qu'il y avait... Il y a Alice, qui est un des trois personnages, donc qui est une mère monoparentale. Elle a un rendez-vous hebdomadaire dont elle ne peut pas se passer. Oui. C'est le Club du Rire.
Le Club du Rire, qui est ce qui la maintient en vie, on pourrait dire
à ce point-là.
Parce que elle est négative dans sa vie de tous les jours. Elle est caissière dans un Tigre géant. Ses deux adolescents lui mènent la vie dure. Elle a comme activité principale à la maison de laver la vaisselle et aller sur des sites de rencontres sur Internet. Ce qui la démoralise pas rien qu'un peu. Donc, le Club du Rire dans la semaine, c'est ce qui...
C'est ce qui la tient en vie.
Ah oui, c'est ça.
Et puis, il y a Xavier.
Xavier qui, lui, est à l'opposé d'Alice. Lui, il est très jovial. C'est un étudiant de 17 ans au cégep en cinéma. Donc, il y a tout pour lui. Lui, il est beau garçon. Il est un peu en marge. Il se plaît là-dedans. Il va au cégep en pyjama. il se trouve drôle, il fait des farces, mais il connaît Alice parce qu'il l'a rejoint au Club du Rire aussi.
Ah, OK.
Donc voilà.
Et entre les deux, il y a Gabriel, 30 ans.
Gabriel, dont on ne sait pas pourquoi, on ne sait rien de lui. En fait, on ne sait rien de sa connexion avec les deux autres parce qu'il est complètement étranger à toute cette histoire du Club du Rire. Lui, c'est le théâtral, c'est le dramaturge.
OK.
C'est lui qui écrit une pièce... qui est basé sur les bandes dessinées Archie.
Ah oui?
Donc, lui est en quête d'une relation stable, une relation amoureuse stable. Donc, on le voit durant ses péripéties, ses rencontres, ses recherches aussi Internet. Donc, tout comme Alice, il recherche. Donc, et ils ont ça en commun. On voit leur vie amoureuse, on voit le banal de leur vie. Mm-hmm. On voit aussi leurs échecs et rarement leurs réussites, mais parfois, il y en a. Donc, c'est très attachant parce qu'on voit des personnages différents avoir vivre les mêmes choses différemment. Donc,
je lisais à un moment donné la critique d'un lecteur qui disait que c'est naïf tout autant que cruel.
Oui. C'est très...
Dans quel sens?
En fait, c'est quand je disais qu'on riait jaune, c'est vrai, parfois c'est drôle, c'est naïf, c'est très, très léger. Puis tout à coup, on se rend compte que là-dedans, il y avait quelque chose de caché, quelque chose de super triste, noir. Donc, c'est là où c'est faussement naïf.
Faussement naïf.
Ouais.
Et on dit toujours de l'écriture de Simon Boulris qu'il n'hésite pas à faire des surenchères et il en rajoute et il en rajoute. Et c'est le cas aussi dans celui-ci? Parce que vous en avez vu d'autres avant vous, de Simon Boulris?
J'avais vu une pièce, mais je n'avais pas lu le livre. Donc, d'accord. Je connaissais un peu son... Je ne savais pas qu'il écrivait de livres.
Ah oui, mais lui, il est vraiment multidisciplinaire.
Je ne le connaissais pas à ce point. Ouais. Je connaissais son nom, j'avais déjà vu de son travail, mais j'avais été surpris pas surpris du travail qu'il peut faire, mais j'avais été surpris du livre dans sa qualité, de l'aimer autant. Ensuite, ben là, l'histoire détachée de l'auteur, ça aurait pu être n'importe qui mm-hmm. qui l'aurait écrit, puis je l'aurais aimé, mais on voit très bien son style quand mm-hmm. même. Dans...
Facile à lire à voix haute, M. Boulris?
Plus, je dirais plus facile que d'autres, parce que c'est pas qu'il est simplement écrit, mais il est les idées peut-être me rejoignent en plus.
Okay,
peut-être
d'accord.
que je voyais ce qu'il voulait dire. Il y a des livres parfois qui ils ont des tournures. La syntaxe
est telle
que on doit la reprendre trois fois parce qu'on l'a pas compris.
Oui, ça arrive.
C'est comme
ça.
Une blague qu'on doit entendre trois fois.
Oui, c'est ça exactement. Puis là, tu fais bon, bah, regarde. Ou alors tu vas te coucher. Ou non, mais c'est
on
vrai.
Dort
ah oui. Ou alors on dort là-dessus. Je m'aperçois
que moi, je travaille avec un moniteur aussi.
Oui, c'est vrai.
Puis des fois, le moniteur peut aider. Il dit, ben, c'est comme ça, mais quand les deux n'ont pas compris...
Alors, là, il y a un moment donné,
là,
non, c'est ça.
Donné,
mais là, ce n'est pas le cas du
là,
tout avec Boulris.
Cas,
je pensais, cher Sébastien, peut-être vous faire entendre un extrait de ce que vous aviez lu. Puis finalement, je me suis dit, oh, je l'ai sous la main. Je vais carrément lui demander de nous lire un paragraphe. Est-ce que ça vous dérange?
Ça, c'est pas cruel, ça. ça me fait plaisir. Oui.
Alors, ben, écoutez, comme je ne savais pas lequel exactement et que c'est vrai que Sébastien n'était pas au courant, je pensais peut-être le premier paragraphe du premier chapitre.
Oui, ce sera représentatif dans le style, mais peut-être pas dans l'histoire, puisque c'est le premier paragraphe, bien entendu.
OK, on y va comme ça.
Alors, chapitre 1. C'est drôle. Le bruit que vient de faire sa bouteille de jus de pomme Dole en défissant le bouchon. Ça fait le même son que lorsqu'on débouche une bouteille de boisson gazeuse. C'est curieux, c'est pourtant pas de l'orangeade, qu'elle se dit. Mais il s'agit d'un vieux restant de jus qu'elle a ramassé dans son frigo avant de venir ici. Elle en vient à une conclusion hautement scientifique. Les vieux jus finissent par créer un genre de gaz, comme une liqueur. Le son n'était pas inspirant. Il aurait certainement découragé n'importe qui, mais Alice n'est pas n'importe qui, et elle a soif. Alors elle boit d'un trait le restant de vieux jus rance qui dormait dans le fond de son frigo, une heure plus tôt.
Et voilà, c'est... non, mais simplement pour qu'on vous entende.
Ah oui.
Mais c'est très
ça
gentil.
Présente bien le personnage d'Alice.
Exactement, parce que finalement, c'est ça, quoi. La fille, on sent que dans sa vie, c'est pas franchement réjouissant.
Non.
C'est pas franchement un fond de champagne qui reste au fond de son frigidaire, mais un fond de vieux jus. Sébastien Blondeau, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer, que dis-je, à venir. Oui, de toute façon, en studio, moi, j'y suis quasiment tout le temps. Mais je vous remercie vraiment d'être venu jusqu'à nous.
C'est un plaisir.
Et puis, j'espère qu'il y en aura d'autres, des bouquins. Alors, on vous réentendra à d'autres moments et toujours avec beaucoup de bonheur. Merci, Sébastien Blondeau. Au revoir.
Merci.
J'adore le petit côté désuet de cette musique, vieux James Bond, où on se croirait sur la croisette à Cannes avec un homme qui marche en petit costume serré, avec sa petite cravate très très étroite. On sait qu'il a un revolver derrière. Allez, on va dire qu'il va rejoindre une très jolie blonde au casino, évidemment. Elle est en train de... Elle est à la table de poker, tiens. Elle est à la table de poker, elle a joué le 7 rouge lorsqu'il arrive. Bon, allez, on va arrêter ça là, parce que ce n'est pas du tout de cela dont je voulais vous parler. C'est la bande-annonce pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera le 18 novembre. Et quand on dit le 18 novembre, on dit lancement, départ, première soirée du Salon du Livre de Montréal. En prévision de cet événement, nous allons accueillir en studio deux personnalités. D'abord, et nous en sommes très fiers, Claudia Larochelle qui a spontanément accepté de devenir porte-parole de l'organisme Vues et Voix. Et Claudia Larochelle, qui va se retrouver assez régulièrement au Salon du Livre pour toutes sortes d'événements, et notamment parce qu'elle s'est commise dans cette série aux côtés d'autres auteurs comme Alina Postolska ou encore Martin Michaud, la série Vol 459, et elle a écrit, dans le cadre de cette série, Les îles Canaries. Alors Claudia Larochelle, je vous propose qu'on entende un extrait de ce livre-là.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord.
Welcome aboard, ladies and gentlemen. For your safety and comfort, please take a moment to watch the following safety video.
Ce film concerne votre sécurité à bord. Merci de nous avoir.
Être barman, c'est respirer le cou des femmes sans passer pour un schnappant. J'en ai senti des flamboyantes qui se parfument avec des notes épicées pour accentuer leur présence, des amoureuses éconduites qui cherchent à se consoler en appliquant des poudres scintillantes, d'autres qui camouflent un manque d'hygiène sous des effluves fruitées, rappelant les eaux de Cologne bon marché des adolescentes. L'odeur la plus sensuelle qu'il m'ait été donné de humer était celle de Louisa Vanier. Et la dernière fois qu'elle s'est avancée vers le bar au sortir d'un vol, le mélange des notes de jasmin et de vanille me semblait encore plus prononcé qu'à l'habitude. Son air était exaspéré. Là, plus précisément, les quelques mèches échappées de sa chevelure, relevées en chignon, étaient collées à sa nuque légèrement humide, malgré la climatisation trop forte de l'aéroport. Un peu de mascara semblait avoir coulé de son œil droit, laissant un sillon sombre sur la peau de son visage, tranchant avec sa blancheur habituelle. C'est d'abord cette image de la jante de bord qui m'est revenue en mémoire, en apprenant l'écrasement du vol 459.
Eh bien oui, ça finit forcément par un crash puisque c'est la série 459. Alors je vous rappelle que cet extrait du livre Les îles Canaries, écrit par Claudia Larochelle. Claudia Larochelle, nouvelle porte-parole officielle de l'organisme Vues et Voix. Mais c'est pas tout. La semaine prochaine, je vais encore et aussi recevoir Jean-Louis Roy. Et Jean-Louis Roy a enregistré le livre Le Pèlerin Noir, dont il est l'auteur. Et l'événement, eh bien, c'est que c'est le premier livre audio qui va sortir sous étiquette production Vues et Voix. Et l'autre événement, c'est que ce livre-là sera lancé le soir de la diffusion de cette émission, c'est-à-dire le 18 novembre, premier soir du Salon du Livre, à l'ouverture du Salon du Livre. Alors, en ce qui concerne ce bouquin de M. Roy, Le Pèlerin Noir, c'est une histoire très singulière dont quelques éléments sont connus avec certitude, mais pas tous. Alors, les éléments connus sont ceux-ci. Nous sommes en 1323-1324. Un jeune aristocrate africain, le Kankan Moussa, le roi de Niani, accomplit le pèlerinage à la Mecque avec une suite de 8000 hommes, 12000 d'ailleurs selon certains. L'aventure est sans précédent. Il s'agit là d'une longue traversée du monde qui est marquée bien évidemment d'événements imprévus, certains d'ordre personnel, d'autres liés aux aléas d'un si long voyage. Alors, vous le voyez, une histoire certainement très passionnante. Le Pèlerin Noir, c'est signé Jean-Louis Roy, production Vues et Voix. Et je vous en propose un extrait tout de suite, Le Pèlerin Noir de Jean-Louis Roy.
L'arrivée d'une délégation dans la cour d'honneur est saluée de diverses manières. Les cavaliers lèvent leurs armes vers le ciel, les chevaux se tiennent en équilibre sur leurs pattes arrière. Leur grand manteau rouge, bordé de fils d'or, trace une ligne lumineuse sur les hautes murailles blanches. Au tambourinage du corps des musiciens royaux, répond celui des visiteurs. Au bruit rythmé des uns, succède le bruit des roulements des autres. Ce dialogue rejoint les visiteurs et leurs hôtes. De fortes invocations marquent ainsi la joie de leur rencontre. Le grand chambellan s'approche du chef de délégation et le salue au nom du roi par les mots venus du prophète. Pour vous, il fit de la terre une couche, du ciel une voûte, du ciel il fit descendre de l'eau et par elle il fit sortir des fruits qu'il vous attribue. Ne donnez pas à Dieu d'égo maintenant que vous savez.
Voilà un extrait du livre de Jean-Louis Roy, production Vues et Voix, qui sera lancé, je vous le rappelle, le 18 novembre, soir d'ouverture du Salon du Livre de Montréal 2015. Le titre du livre, je vous le redonne, Le Pèlerin Noir.
tiens, ça faisait longtemps, une petite chronique sur la table de chevet de Claude. En ce moment, j'ai sur ma table de chevet le livre de Nicola Ciccone qui s'appelle « Dans les yeux d'Ophélia ». Ça, c'est une très, très touchante histoire que celle d'une rencontre entre un homme et une femme. Bon, jusque-là, il n'y a rien de particulièrement original, mais si je vous dis que ça se passe entre un homme, un rien paumé, récemment séparé, un homme complètement aveuglé, finalement, par la douleur, par le malaise, par le mal-être, et une femme qui, elle, est une vraie aveugle, elle est réellement aveugle, ah, soudain, j'imagine que, comme moi, vous vous dites qu'il doit y avoir là un beau moment de lecture, et c'est le cas. L'épigraphe du livre est le suivant. « Le non-voyant, l'aveugle, n'est pas celui qui est privé de ses yeux, mais celui qui est privé de la vue. » Alors, cet homme et cette femme se rencontrent à l'expo « Les impressionnistes » présentés au Musée des Arts, et j'ai pour vous un extrait. Devant le tableau « Impression soleil levant », je me suis assis sur un banc de cuir noir au milieu de la grande pièce. À ma gauche, immobile, une jeune fille d'une vingtaine d'années fixait le tableau. D'une beauté indéniable, elle avait les cheveux noirs et portait un parfum léger. Je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder, mais elle n'avait Dieu que pour le tableau. Il l'hypnotisait. Puis, j'ai vu une larme tomber de son œil gauche et couler sur son visage. J'étais complètement bouleversée, à tel point que j'en ai oublié ma peine. Regardez ce tableau vous fait pleurer. Vous le trouvez donc si beau? C'est de ne pas pouvoir le regarder qui me fait pleurer. Je suis aveugle, a-t-elle répondu sans se retourner. J'ai penché un peu la tête et j'ai vu une canne blanche dans sa main droite. Je me suis étonnée. Vous êtes non-voyante et vous fréquentez le musée? J'adore le musée. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de vous asseoir devant un tableau si vous ne pouvez pas le regarder? Regarder ne veut pas dire voir. Beaucoup de gens confondent la capacité de regarder et celle de voir. On peut regarder sans voir. La vue est quelque chose de beaucoup plus profond que la simple perception des objets avec ses yeux. La vue dépend aussi des autres sens et surtout du cœur. Puisque je suis aveugle, je suis incapable de regarder, mais je vous assure que je vois, m'a-t-elle répondu, presque avec insolence. Ah oui, et qu'est-ce que vous voyez? Je vois la force des tableaux dans le silence qu'ils imposent aux visiteurs. Cette salle est remplie de gens et pourtant le silence y règne. Les gens sont tellement habités par ces tableaux qu'ils ne parlent plus. À travers leur silence, je peux imaginer à quel point ces tableaux sont magnifiques. Voilà, extrait de « Dans les yeux d'Ophélia » signé Nicola Ciccone, un livre que j'ai pour l'instant sur ma table de chevet. Ce n'est pas un gros livre, c'est vraiment une petite plaquette qui se lit fort bien. Et à mon avis, ça devrait être vite lu, vite su. Bon, allez, j'ai plein de titres en rafale à vous proposer. Alors, voici un titre, ça faisait plusieurs semaines que je n'arrivais jamais à le caser dans mes rafales. J'ai dit « Ok, je vais le mettre en premier cette semaine ». En ce moment, c'est la folie du hockey à Montréal, on le sait. Eh bien, ce titre, c'est « Pour l'amour du hockey, l'histoire de Bobby Orr ». De Bobby Orr. Le résumé, bah écoutez, c'est le livre qu'on n'attendait plus, hein, cette autobiographie de Bobby Orr, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du hockey, un défenseur qui a complètement révolutionné son sport durant une carrière, malheureusement et prématurément écourtée par des blessures récurrentes au genou. D'une humilité rarement vue chez une grande étoile du sport professionnel, l'homme préfère mettre en lumière plutôt que ses exploits et statistiques personnelles les gens qui l'ont aidé et qui l'ont influencé dans son parcours. Alors ses parents, entraîneurs, coéquipiers, adversités, célébrités. Et puis il s'attarde aussi à la résilience, qu'il a développée face aux épreuves qui ont jalonné son parcours, ainsi qu'aux plus belles valeurs que peut offrir le sport. Le dépassement de soi, la persévérance, l'entraide, l'amitié et bien d'autres encore. Pour l'amour du hockey n'est pas qu'un livre tourné vers l'évocation du passé, il est aussi très actuel. Orr nous parle de l'évolution de ce jeu dont il est resté un grand passionné et propose des changements pour le rendre plus attrayant et plus sécuritaire pour les joueurs. Il adresse également aux jeunes hockeyeurs d'aujourd'hui et à leurs parents un message déterminant
Les enseignements qu'un jeune retire de la pratique d'un sport, il pourra les appliquer dans sa vie pour en faire un succès. Le hockey est une école de vie et de formation des valeurs d'un individu et Bobby Orr nous le démontre de manière éloquente dans ce témoignage fascinant. Allez, un bon petit polar maintenant. Darlan Coben, C-O-B-E-N, à découvert. Après livre à découvert, voici à découvert. Mickey est en colère. Oh là là, des événements tragiques qui l'obligent à vivre temporairement chez son oncle Myron, qu'il croit au moins en partie responsable de sa situation. Et en plus, Ashley, sa nouvelle petite amie, n'est pas venue en cours depuis des jours et ne donne plus signe de vie. Pire encore, à l'adresse où elle habitait, personne ne semble la connaître. Mickey, qui a déjà vécu trop de séparations douloureuses, refuse de se laisser faire encore une fois et il découvre bientôt qu'Ashley n'était pas vraiment la jeune fille timide dont il était tombé amoureux et qu'elle fréquentait un milieu dangereux. Dans Actualité, on disait « Le roman est plutôt bon dans la psychologie adolescente, par exemple, et la narration correcte. » Dans L'Express, le 22 octobre 2012, on écrivait « Le génie de l'intrigue, Coben, use de sa redoutable efficacité pour mettre le jeune public sous haute tension. » Et dans Le Figaro, en surfant sur la vague des histoires destinées plus particulièrement aux adolescents, comme l'a fait avant lui et avec succès son compatriote John Grisham, l'auteur de Ne le dis à personne réussit à se renouveler. Un sacré tour de force pour un écrivain qui a commencé sa carrière il y a plus de 20 ans. J'ai une brique entre les mains et j'espère bien recevoir son auteur, M. Paul Hall, qui a écrit « Les fantômes de la Sierra Maestra ». Nous sommes en 49, entre autres, hein, Fidel Castro, parce que oui, il nous transporte à Cuba. Castro est à l'époque un étudiant en droit, il est dans la mire de la CIA et du FBI. Il est un danger pour les États-Unis, prétend-on. À des milliers de kilomètres de là, Ernesto Guevara, ce jeune Argentin étudiant en médecine, a épuisé une première vie dans sa lutte contre l'asthme. Il se jure que son autre vie servira à changer le monde. Cette même année, Jean-Paul Sartre, un philosophe français obsédé par le racisme, met les pieds à Cuba pour la première fois. On lui a raconté que les fantômes des combattants d'une autre époque hantent les hauteurs de la Sierra Maestra et que nul dictateur ne parviendra à les réduire au silence. C'est aussi l'île d'Ernest Hemingway que nous raconte évidemment Paul Hall entre deux daiquiris. Il dit qu'il ne donnera pas sa vie pour Cuba, mais c'est que c'est grâce à Cuba qu'il est encore en vie. C'est donc dans l'île de Cuba que se passe ce livre, ce point minuscule sur la carte du monde, tenu par tous les aventuriers, trafiquants, mercenaires, mafiosi et autres démons pour être un paradis perdu sous les étoiles, que s'amorce le compte à rebours d'une révolution qui va marquer le XXe siècle. C'est le roman de toute une vie que vous propose Paul Hall, une œuvre immense et un récit absolument fabuleux, « Les fantômes de la Sierra Maestra ». L'inconnu du Grand Canal de Donna Leon. Mais qui est ce cadavre défiguré qui flottait dans le canal? Aucun élément d'identification possible, si ce n'est une chaussure. Pas de signalement de disparition dans la région de Venise. Le mystère semble bien épais pour ce commissaire qui s'appelle Brunetti, vous l'aurez compris. C'est un polar de Donna Leon. Mais il en est sûr, ce visage ne lui est pas inconnu. C'est l'irremplaçable Mademoiselle Elettra qui l'aide à retrouver la mémoire. L'homme avait été filmé lors des manifestations des agriculteurs à l'automne. Nous sommes à Venise, vous l'aurez bien compris. La ville que Brunetti aime tant, d'ailleurs, ne sera désormais pour lui plus tout à fait la même. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'une nouvelle fois, une histoire italienne de tous les jours, mais souvenons-nous avec humilité de l'affaire de la viande de cheval congelée, racontée avec une foule de détails pointillistes à la manière d'un Sisley ou d'un Seurat, décrivant de façon réaliste des spécimens de pauvres types, particulièrement bien brossés, c'est à dévorer avec le cœur bien accroché, nous dit-on. Sujet aussi tristement d'actualité, les sœurs volées d'ailleurs tout seules, une enquête sur un féminicide au Canada d'Emmanuel Walter. Vous savez, la découverte de ce corps de la jeune Tina Fontaine, âgée de 15 ans en août dernier au Manitoba, a ravivé le débat sur le sort réservé aux filles et aux femmes autochtones au pays. Alors, Emmanuel Walter étaye, entre autres, ses propos sur ces disparitions à l'aide de troublantes statistiques qui sont compilées par divers organismes et universitaires, dont le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et d'autres regroupements militants Sœurs par Esprit notamment. C'est quelqu'un qui s'attarde aussi sur les plus récentes données émises par la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, dans un rapport rendu public plus tôt. Cette année. Si vous aimez l'actualité, c'est vraiment à lire ce livre d'Emmanuel Walter qui, je vous le rappelle, s'intitule « Sœurs volées, enquête sur un féminicide au Canada ». Voilà, c'était l'émission des livres plein les oreilles. Merci Jean-Sébastien Laliberté. Merci aussi à mes invités, Sébastien Blondeau et Abla Faroud, revenu pour nous parler de son livre « Toutes les femmes que j'étais ». Merci aussi au tout début de l'émission à Suzanne Lalumière. Il m'a fait plaisir de vous présenter cette émission. Je m'appelle Clotilde Sey. Je vous souhaite une belle semaine, une belle lecture.